allons traiter un sujet particulièrement important. Les rapports de l'âme et du corps. Si vous vous souvenez bien, la dernière fois, nous avons essayé de comprendre comment, au plan philosophique, on pouvait découvrir cette source cachée de vie qui est l'âme. Cette double connaissance que nous avons de l'âme, une connaissance affective, l'intériorité, la présence de l'âme. Par l'intériorité, il y a une certaine présence de l'âme. On doit aimer son âme. C'est très important, ça. Parce que je crois que c'est par là qu'on peut découvrir le sens de notre vie. On doit aimer son âme. Néoplatonicien Plotin, deuxième siècle après Jésus-Christ, rappelait cela dans ses entretiens. Comment se fait-il que tu oublies si facilement ce qu'il y a de divin en toi, que tu te laisses prendre par la dispersion, que tu te laisses prendre par les choses diverses et multiples? La distraction. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui, Plotin ? La distraction de toutes les propagandes, des masses médias, de la télévision. Aujourd'hui, rien n'est pour l'intériorité. Et tout est pour l'oubli de l'âme. Savez-vous bien comprendre ça ? Pour la distraction, pour la dispersion. Et ça pénètre tellement loin que ça pénètre même, j'allais dire, dans la catéchèse, ça pénètre même dans la théologie. Ce philosophe du deuxième siècle après Jésus-Christ, qui n'a sans doute pas connu la révélation, qui était à Rome, rappelle que l'âme doit se découvrir par une voie d'intériorité et qu'on doit aimer cette présence de ce qui est source pour nous de lumière et d'amour, source d'unité, ce qui fait l'unité profonde de notre vie, c'est notre âme. Et Plotin ajoute, n'oublie pas cette étincelle de divin que tu portes en toi, cette étincelle de divin, quelque chose qui est au-delà de tout ce que nous pouvons constater immédiatement et qui nous met en parenté avec ce qu'il y a de plus sublime, de plus grand, le divin. L'âme spirituelle est considérée comme faisant partie du divin parce qu'elle est au-delà du corruptible. Une fois qu'on a découvert par l'affectivité, par les traditions religieuses, cette présence de l'âme, nous devons essayer de préciser ce qu'elle est. Et c'est la voie inductive. Par l'induction, nous pouvons préciser qu'il est nécessaire de poser une source propre de toutes nos opérations vitales, une source intime qui maintient en nous cette unité profonde. Et cette source, c'est ce que nous appelons l'âme. Je vous avais dit, et je crois ça très important de se le rappeler, le terme « âme ». par les philosophes, mais s'il provient des traditions religieuses, ce sont les traditions religieuses qui véhiculent ce terme, âme et corps. Et le philosophe doit se demander si c'est un mythe, si c'est un symbolisme purement poétique, ou s'il y a un fondement profond et réel. Et par l'induction, il découvre la nécessité de poser une source d'unité de toutes nos opérations vitales. Parce que toutes ces opérations vitales, dans leur très grande diversité, ont quand même une unité. Ce sont mes opérations vitales. Que je mange, que je dors, que je pense, que j'aime, que je vois, c'est toujours moi. L'âme, ce n'est pas le moi, mais c'est la source du moi. Et ce moi présent à travers toutes ces opérations dans leur diversité exige de poser une source radicale de toutes ces opérations qui est l'âme. Nous allons maintenant essayer de comprendre, une fois qu'on a découvert la distinction de l'âme et du corps, il faut maintenant saisir les rapports de l'âme et du corps. Un problème philosophique extrêmement important. Alors je vous rappelle ici tout de suite les deux grandes positions, parce qu'il y en a deux, il ne faut jamais l'oublier. La position de Platon et la position d'Aristote. Alors, on doit toujours comprendre ce qu'il peut y avoir de vrai dans Platon. Parce que Platon doit toujours un peu rester à l'horizon de notre philosophie. Vous savez ce que dit Heidegger quand il dit que toute la philosophie occidentale n'est au fond qu'une interprétation de la philosophie platonicienne. C'est un jugement peut-être un peu trop rapide, ce n'est pas toujours très vrai, mais ce qu'il veut dire est vrai, c'est que Platon a joué un rôle extraordinairement important dans toute la philosophie occidentale. Et par Platon, il y a le lien avec l'Orient, l'Inde, de plus en plus, on est convaincu qu'il y a un lien entre Platon et l'Inde. Ce qui est intéressant du reste, Platon n'est pas entièrement grec. Et quelqu'un comme Breillet, historien de la philosophie grecque, n'hésite pas à le dire. Platon a eu quelque chose de beaucoup plus mystique que les Grecs. Les Grecs sont très réalistes, très réalistes. Platon, il décolle assez facilement. Il est un beau planeur, merveilleux, extraordinaire. Il y a des intuitions de Platon qui sont merveilleuses. Quand Platon dit par exemple que le poète, l'amoureux, le philosophe, et le mystique se rejoignent. C'est très beau, ça. Ça fait partie des intuitions de Platon très étonnantes. Vous voyez, le poète, l'amoureux, le philosophe et le mystique ont quelque chose de commun. Et c'est vrai, ils ont quelque chose de commun, c'est que ils regardent un peu l'invisible. Parce que leur regard est sur l'invisible, il y a quelque chose de commun. Pour Platon, le monde se divise en visible et invisible. Le monde visible, ce sont les apparences, et l'invisible, c'est la réalité. Le mythe de la caverne, il ne faut jamais l'oublier, et le mythe de la caverne est sûrement ce qui exprime le mieux la nostalgie platonicienne. Le mythe de la caverne, c'est dans la République. Et la République, vous savez, c'est le grand livre de Platon avant son autocritique. sont un peu esclaves du philosophe et du roi. Ça, c'est le côté terriblement aristocratique de Platon. Faut pas oublier, il a du sang impérial dans les veines. Et c'est vrai, il y a quelque chose de très très grand chez Platon, mais aussi un peu terrible. Et bien pour Platon, le corps est la pierre tombale de l'âme. Il joue sur l'étymologie du corps et la pierre tombale, qui en grec représente à peu près les mêmes mots. Et alors, le corps, c'est la pierre tombale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le corps nous étouffe. Le corps nous empêche de respirer pleinement au plan spirituel. Le corps, c'est ce qui nous arrête. Le corps, c'est ce qui nous empêche de vivre pleinement ce qui en nous est le plus spirituel. Ce qui est le plus spirituel en nous, c'est notre âme contemplative, notre âme noétique, le nous, l'intelligence, l'esprit. C'est ça qui arrête par son terrible conditionnement les grands élans mystiques. Platon est un mystique. Je ne dis pas que toute sa mystique est vraie, hein, faisons attention. Mais c'est un mystique, Platon. Il y a des choses qui sont complètement à côté. Il y a des choses très belles. Il faut faire la part à Platon. Quand on le lit, il ne faut pas suivre Platon. Si vous suivez Platon, ça devient dangereux. Si vous êtes chrétien, parce que c'est pour entièrement assumable. N'oubliez pas que Saint Augustin a été converti par Platon. Il a trouvé que Platon a été le divin Platon. Et ça l'a converti. Ça l'a amené vers Dieu. Et il est toujours un peu resté lié à Platon. C'est ce qui explique comment Saint Augustin, il y a des choses qui ne sont pas suffisamment précises. Mais Platon, vous voyez, a ce mérite extraordinaire d'être un spirituel. Alors l'esprit, notre âme spirituelle est contemplative. Et notre âme spirituelle est divine. Elle a vécu, avant d'être unie au corps, une vie contemplative. C'est dans le dialogue du Phèdre qu'on voit ça le mieux. Où l'âme était celle qui accompagnait les dieux, qui suivait les dieux. Et par le péché, par la faute, elle a été unie au corps. Donc l'union de l'âme au corps s'explique par une chute. C'est donc une union pénale. C'est pas une union de nature. C'est une union violente. On est comme en prison. Notre âme est en prison quand elle est dans le corps. Et c'est pour ça que toute la recherche philosophique consiste à sortir de cette prison le plus qu'on peut. Le propre du philosophe, c'est de s'orienter vers la mort, qui est une délivrance. Alors si on a bien vécu, c'est-à-dire si on a vécu philosophiquement, puisque bien vivre, c'est de vivre en philosophe. Pour Platon, c'est net. C'est-à-dire avec une aspiration contemplative. Si on a bien vécu, on est libéré de notre corps et on retrouve notre état primitif de contemplatif. On est divinisé. Si l'homme a mal vécu, il se réincarne dans une femme. Pas l'oublier, ça c'est Platon. Et si la femme vit mal, elle se réincarne dans un animal. C'est tout l'aspect de la réincarnation, vous voyez, qui vient de l'Inde et qui reprend aujourd'hui, hein. plein d'action, c'est absolument délicieux. Il m'a dit qu'il était une réincarnation d'un grec du temps d'Aristote. J'étais très heureux. Alors je lui ai demandé malicieusement s'il savait le grec. Alors il m'a dit, ah non, ça je ne le sais plus. Il m'a dit, c'est dommage. Si vous êtes une réincarnation d'un grec du temps d'Aristote, c'est quand même très dommage que vous savez le grec. Qu'est-ce que vous en avez fait? Ah, il y a eu plusieurs incarnations entre deux. Puis on a parlé là-dessus sur les successives incarnations. Mais c'était très amusant. Il lui prenait ça très au sérieux. J'ai essayé de faire comprendre qu'il y avait peut-être une autre voie. Mais ça, c'est la voie platonicienne, c'est la voie de l'un qui s'est introduit en grec par Platon. Ça n'a pas fait mon feu, du reste. Mais il ne faut pas oublier que chez Platon, l'union de l'âme et du corps est une union accidentelle. Ce qui explique la réincarnation. Il ne faut pas oublier ça. La métapsychose, au fond, repose là-dessus. C'est que l'union de l'âme et du corps n'est pas substantielle. Est accidentelle. Alors évidemment, c'est comme un vêtement. Vous avez un vêtement de printemps, d'été, d'automne et d'hiver. Alors on ajoute des couches successives pour l'hiver et on en enlève pour le printemps et l'été parce que le vêtement est uni accidentellement à notre peau, à notre corps. Il est lié à notre corps, mais accidentellement. C'est pour ça qu'on peut l'enlever. Tandis que c'est plus difficile d'enlever vos cheveux, sauf si une perruque. Alors on met la perruque de printemps, d'été, d'automne, n'est-ce pas ? Mais autrement, c'est plus difficile parce que c'est lié quand même à nous-mêmes. Et c'est difficile de changer de corps. On devrait pouvoir faire ça, n'est-ce pas ? Avoir une petite hippopotame pour l'hiver, on ne sentirait rien. Une peau extraordinairement fragile pour le printemps et l'été. C'est curieux, cette position platonicienne. Elle est très intéressante et elle est très actuelle sous certains aspects. Elle est ésotérique. On rêve toujours à la manière de Platon. Platon, c'est un grand rêveur. Et je crois que Platon, à ce point de vue-là, serait merveilleux pour nous donner tous nos grands rêves, toutes nos grandes nostalgies. Il nous donne des grandes nostalgies. On a tous eu des rêves comme ça, vous savez, où on quittait son corps et où on s'envolait dans les airs. C'est merveilleux de voir s'envoler, libre de son corps. Le corps continue de dormir, mais l'âme n'a pas besoin de dormir. C'est terrible de dormir tous les jours. C'est à cause de notre corps. Alors on voudrait bien le laisser là et puis partir quand on a un petit peu s'évader. Toutes nos nostalgies profondes, n'est-ce pas ? Platon les donne, c'est le philosophe des grandes nostalgies humaines. Si j'avais le temps à la fin de ma vie, je ferais ça. Platon, le philosophe des grandes nostalgies. Parce qu'il est admirable de ce côté-là. C'est quelque chose de très grand. Il a saisi toutes les nostalgies. Aristote, disciple de Platon pendant 20 ans, faut pas l'oublier, de 18 ans à 38 ans. Aristote, que Platon appelait le liseur. Aristote refuse catégoriquement cette position de son maître. Il dit non, l'union de l'âme et du corps est une union substantielle, naturelle, pas accidentelle. C'est une union naturelle. Notre âme est unie à notre corps naturellement et pas à cause d'un péché. Pourquoi Aristote dit-il ça ? C'est ça qui m'intéresse au plan philosophique. Sa réaction en face de Platon est très intéressante. Mais cette réaction, pourquoi ? Pourquoi Aristote dit-il ça ? Il dit ça à cause de l'expérience. connaissance. Il n'y a pas au sens strict d'enseignement pour Platon. Il faut tout simplement rappeler ce que vous avez vécu antérieurement. Et donc il n'y a pas d'enseignement sans absolu. Petit pour Aristote, il n'y a pas d'enseignement. C'est pour ça que je suis aristotélicien, vous comprenez? Parce que comme ça, il y a un véritable enseignement. C'est un fondement de l'enseignement. C'est pas à cause de ça que je suis aristotélicien, c'est parce que la philosophie repose sur l'expérience. Et que si je réfléchis un peu, je vois qu'en effet, c'est l'expérience qui pour nous est toujours source à la fois d'interrogation et qui me permet d'avancer. C'est vrai, on fait la philosophie de ses expériences. C'est pour ça qu'on progresse indéfiniment et qu'on ne peut jamais arrêter sa philosophie. Parce que normalement, si on continue de vivre, nos expériences prennent une profondeur toujours plus grande. Jusqu'au jour où on n'a plus assez de contact avec le réel extérieur à nous, parce qu'on a peur, et on se réfugie en soi, alors à ce moment-là, il n'y a plus de présence. Vous voyez, un vieillard qui ne vit plus, il vit de son passé, et il n'a plus assez d'accroche par rapport au réel. Un peu comme les vieux pneus, vous savez, ils n'adhèrent plus assez. Alors ils glissent. C'est dangereux. C'est un peu ça, le vieillard. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez dire, vous avez affaire d'un vieillard, il ne progresse plus. Tant qu'on progresse, on n'est pas un vieillard. Tant qu'on progresse, on garde en soi un désir d'aller toujours plus loin. Tandis que le jour où on fait uniquement exploiter son capital, on est un vieillard. Une société qui ne fait plus qu'exploiter son capital, c'est un vieillard. Elle n'a plus assez d'invention pour progresser. Le vieillard, c'est ça, il vit du passé, il vit de ses expériences. Vieux soldat 1914, les guerres de Verdun, tout de suite, ça revient tout de suite. Celui, maintenant, il n'y en a plus beaucoup, hein, mais il y en a encore quelques-uns, et quand on les entend, on voit très bien, c'est le passé, ce sont les grandes expériences. Ce qui est du reste très intéressant, c'est les grandes expériences qu'il a vécues. Tandis que quelqu'un qui est jeune, bon, il continue de progresser. Aristote, lui, parle de l'expérience et non pas de la réminiscence. La réminiscence, c'est vivre du passé. Aristote vit du présent, de l'expérience actuelle. Et l'expérience actuelle lui montre que notre expérience la plus forte implique les sensations. Les sensations sont nécessaires à toute expérience. Or, les sensations dépendent du corps. La première connaissance, c'est une connaissance sensible. Nous le reverrons. Je n'insiste pas beaucoup ici, mais je rappelle simplement ça, parce que c'est cela qui a été pour Aristote le point de départ de lutter contre Platon. Pour Aristote, il y a une unité profonde du vivant. C'est du reste par là qu'il a posé là. Et cette unité profonde du vivant montre que je ne peux pas séparer l'âme et le corps. Je n'ai pas en moi deux êtres. Je n'ai qu'un seul être. Mon être actuel. Mon existence actuelle. Vous ne pouvez pas, en vous tâtant le pouls, même si vous arrivez à distinguer en tâtant le pouls comme font les médecins chinois, les sept vibrations du corps humain. C'est quand même toujours l'homme dans l'unité. Je ne peux pas séparer mon âme et mon corps. Il y a une unité de vie. Je n'ai qu'une seule vie. Car ça va très loin dans cette constatation. Et saint Thomas l'a suivi. Saint Thomas est entièrement aristotélicien là-dessus. Pourquoi ? Parce que pour lui, en tant que croyant, et c'est ça qui est peut-être intéressant aussi pour nous à noter, en tant que croyant, Aristote n'a pas eu la révélation. Saint Thomas a eu la révélation. C'est un théologien. En tant que croyant, ce que dit Aristote est assumable dans sa foi. Ce que dit Platon ne l'est pas totalement. Au point de vue de la foi, nous disons que notre âme a été créée par Dieu dans notre corps. Elle n'a pas été créée avant. Origène était platonicien, il a été condamné par l'Église. Parce qu'Origène disait que l'âme a été créée avant. Et ça, l'Église a condamné. Notre âme humaine a été créée dans notre corps. Et donc il y a l'unité profonde d'être et de vie. Mon âme, je ne la saisis pas séparée de mon corps. Si c'était dans les rêves, si c'était dans les nostalgies. Donc saint Thomas a suivi la doctrine aristotélicienne de l'unité substantielle de l'âme et du corps. Je suis moi, philosophe du 20e siècle. Dois suivre Platon, dois essayer non pas de suivre Aristote ou de saint Thomas. Vous savez bien qu'au plan philosophique, l'autorité est la dernière des raisons. C'est très bien pour les examens. Autrement, pour votre vie personnelle, il faut que tout soit justifié par votre propre expérience et votre propre découverte. Ça, c'est l'exigence de la philosophie. Le philosophe doit avoir une autonomie de pensée. Il se sert des autorités, c'est bien évident. Je me sers d'Aristote, je me sers de saint Thomas, c'est bien évident. Mais je n'ai pas le droit de dire, puisque Aristote dit ça, puisque saint Thomas dit ça, c'est ça la vérité. Non. Je dois essayer de comprendre. Et c'est très important d'essayer de comprendre. Je peux très bien utiliser les mêmes arguments qu'Aristote. Et c'est ce que nous allons faire. Pour essayer de comprendre le lien de l'âme et du corps après avoir montré comment il existe nécessairement une source fondamentale de toutes mes opérations vitales. Et ceci m'impressionne d'autant plus quand je suis en présence de ce que représente la mort. L'aspect négatif du vivant est très impressionnant. C'est très impressionnant d'assister à la mort d'un ami, de quelqu'un qu'on aime, et même d'assister à la mort tout court. Demandez à des médecins, à des infirmières, qu'est-ce que ça représente. C'est quand même quelque chose de très impressionnant. De faire que, jusqu'à un moment, on suit celui qui vit encore, qui peut-être n'exprime plus beaucoup, mais il vit encore, et tout d'un coup, une rupture. On dit qu'il ne vit plus, il est mort. Extérieurement, au moins au début, rien n'est changé. négatif très très fort pour la présence de l'amour. C'est quelque chose de très très fort, ça on ne peut pas le nier, ça. Nier la mort, vous savez. Voilà, un sacré culot pour dire ça. Nier la mort, c'est une évidence. Quelqu'un qui dit la mort, on lui envoie envie de lui dire attendez, vous y soyez. À ce moment-là, vous serez bien obligé de reconnaître que ça existe. Si vous ne reconnaissez pas la mort chez quelqu'un que vous aimez, c'est une rupture, la mort. Une rupture terrible, terrible au fond. Parce que en nous, tout est vivant. Alors c'est la négation de la vie. Et la négation de la vie nous met en présence de quelque chose qui nous dépasse. Parce que je ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté. Je voudrais bien savoir, mais philosophiquement, je ne sais pas. Je suis bien obligé de reconnaître que je ne sais pas. Alors, je pars de mes expériences, comme le fait Aristote, la sensation, toutes mes expériences vitales, toutes impliquent un lien avec le sensible. Même quand je pense métaphysiquement, c'est-à-dire de la manière la plus spirituelle qui soit, quand je pense au plan philosophique, au plan mathématique, tout est lié au domaine sensible. Je ne peux pas penser sans une certaine référence au sensible, sans qu'il y ait une petite image, disons ça en grec, une petite icône intérieure. Image intérieure, petite icône, que je porte en moi, je la dépasse. C'est ça le prendre de la signification. Parce que l'image n'a pas de signification. L'image peut être représentée, mais n'a pas de signification. Je dépasse l'image, mais je m'en sers pour découvrir quelque chose de plus profond, de plus radical, par où mon intelligence s'éveille. Je sais si la signification des choses, vous voyez la différence entre la représentation que vous faites du chat, de petites oreilles, vous voyez ça tout de suite, les griffes, ça dépend comment vous le représentez, et puis la signification du mot chat, cette signification est universelle, elle est au-delà du sensible. L'universel me montre quelque chose qui est au-delà du sensible. Le sensible est de l'ordre de la représentation. L'intelligence est de l'ordre de la signification. Il faut beaucoup réfléchir sur ce partage des deux et comprendre que la signification peut être universelle, tandis que la représentation ne peut pas être universelle. Quand vous êtes représentant de produits, toute espèce de produits pharmaceutiques ou autre chose, vous savez que vous parlez toujours de choses individuelles. Et vous pouvez montrer les choses. Tandis qu'au contraire, lorsque vous essayez de comprendre la signification des mots, il y a quelque chose d'universel. Le mot « je » regarde toute espèce d'individu de chat, depuis le chat le plus misérable qui connaît les chats, jusqu'au chat de luxe, extraordinaire, merveilleux, capricieux parce que merveilleux. Il y a des chats comme ça, des objets de luxe, et puis il y a les chats des boutières, pas objets de luxe, c'est le même chat. Au point de vue de sa signification, pas au point de vue de l'amour que vous avez pour lui, mais au point de vue de la signification, parce que votre amour porte toujours sur un petit individu. Donc vous voyez que toutes vos opérations sont liées au sensible. Et c'est à partir de là qu'on peut dire que l'âme ne peut pas être unie accidentellement au corps, parce qu'il y a une unité de ma vie. Et donc l'âme est liée substantiellement au corps. quand je dis que l'âme est liée substantiellement au corps, je veux dire que l'âme ne fait pas nombre avec le corps. Ce n'est pas une réalité séparée du corps. C'est une réalité qui anime le corps, qui donne au corps sa signification, qui donne au corps son intelligibilité. Mais l'âme ne peut pas être séparée du corps, ce n'est pas une réalité séparée du corps, c'est quelque chose qui est dans le corps. Il n'y a qu'une seule réalité. Moi-même, vous-même, une seule réalité. Et cette réalité implique deux principes, mais une seule réalité vivante. Et la mort sera la séparation de deux réalités intimement unies. Pour Platon, la mort est une délivrance. Pour Aristote, la mort est une rupture, une division radicale et une rupture de deux choses qui sont intimement liées. Et pour le chrétien, la mort est une peine. Pour le biologiste, la mort est une nécessité. Parce qu'une fois, un biologiste bien connu, avec qui je parlais sur la question de la mort, il me disait c'est une nécessité pour le biologiste. Parce que s'il n'y avait pas la mort, il n'y aurait que des éléphants. Petite planète. Il n'y aurait que l'animal le plus puissant qui existerait. C'est très vrai. Il n'y aurait que l'animal le plus puissant. L'éléphant est un animal assez puissant, vous savez bien. L'éléphant, l'hippopotame, quand il lutte l'un contre l'autre, on ne sait jamais lequel va vraiment l'emporter. Parce que l'hippopotame, paraît-il, en Afrique, je me suis renseigné. Paraît-il que l'hippopotame est aussi puissant que l'éléphant. Sa force est très différente, il se manifeste autrement. Je ne crois pas qu'il y ait des combats d'hippopotame et d'éléphant. Mais on pourrait les mettre un en face de l'autre. Je ne sais pas ce qui arriverait. Ce qui est sûr, c'est que l'éléphant est un animal d'une puissance remarquable. Chaque année, quand j'allais régulièrement au Rwanda ou au Congo, on me rapportait des événements terribles du reste qui s'était passé. Des jeunes, c'était souvent des Américains qui avaient toutes les audaces possibles, ou des Français qui allaient là-bas avec toutes les audaces possibles, alors qu'ils s'approchaient le plus possible de l'éléphant pour prendre sa photo, on comprend très bien. Et quand l'éléphant ne bougeait pas, et quand il était suffisamment proche, alors il se retournait et avec sa trompe, il le prenait, il l'encerclait et puis il le projetait. Alors vous voyez la chute. C'est extraordinairement habile. Et d'autre part, le petit Pique-Bé, tueur d'éléphants, je l'ai fait comme ça, qui avait tué 18 éléphant dans sa vie. Alors il me disait simplement, la seule différence, le petit pygmée à côté de l'éléphant, ça fait partie du jeu, la sagesse de Dieu, hein, de créer l'éléphant et le petit pygmée. Et le petit pygmée disant, l'esprit, l'éléphant ne l'a pas. Et c'est pour ça que je peux le tuer. C'est très très joli. Est-ce que ça fait comprendre ça? Eh bien, pour le biologiste, la mort est une nécessité. Vous voyez, il y aurait des choses très importantes là à prendre pour le biologiste, puisque le biologiste, en tant que savant, ne peut pas atteindre l'âme. Il regarde la cathédrale de molécules que représente l'homme. Cette cathédrale extraordinaire de molécules, il ne peut pas saisir l'âme. Donc, la mort est une nécessité, parce qu'à un moment donné, la cathédrale... cathédrale de molécules vieillit. Alors il y a des choses qui ne vont plus, et le rythme de la vie ne va plus. Et il y a alors un alourdissement de ce rythme, et puis petit à petit, des perditions. Pour celui qui, philosophe, pose l'âme, la mort, c'est lorsque l'âme n'informe plus suffisamment le corps. Normalement, l'âme domine le corps. On sait bien, quand vous dites à un malade, il faut le moral pour qu'il puisse lutter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'âme arrive à dominer le corps. Alors le moral tient. Et lorsque le moral diminue, l'âme est fatiguée de lutter. Et la mort. Et à ce moment-là, il y a une espèce de victoire de l'aspect sensible, corporel, charnel sur l'âme. Mais c'est vrai que pour le philosophe, la mort, je ne dis pas, est une chose normale. Il la constate. Mais il voit que l'âme humaine devrait dominer le corps. Et que l'âme humaine est faite pour dominer le corps. Parce que l'âme humaine a quelque chose de tellement supérieur au corps qu'elle devrait dominer le corps. Et comment se fait-il qu'il y ait une fatigue de l'âme? Comment se fait-il qu'à un moment donné, on abdique, on ne lutte plus? Quelle fatigue! Et c'est vrai, il faut constater ça. Mais normalement, le point de vue de l'âme humaine doit dominer le corps. Une union substantielle dans l'ordre de l'être et dans l'ordre de la vie. Cette union substantielle, c'est que l'âme est totalement présente. L'âme est quelque chose de spirituel. C'est un principe, c'est une source, elle est donc indivisible. L'âme est totalement présente dans chaque partie du corps. C'est extraordinaire, ça. Puisque l'âme n'est pas matérielle. Elle n'est pas quantitative. Elle est spirituelle. Je ne dis pas qu'elle est immortelle, je dis qu'elle est spirituelle. Le problème de l'immortalité de l'âme, nous le traiterons au terme. Parce qu'il faut le traiter au terme. C'est un problème très difficile. Mais l'esprit spirituel est un principe, tout principe est indivisible. Et donc l'âme a ce caractère d'être indivisible. Et parce qu'elle est indivisible, elle est totalement présente à chaque partie du corps. Votre âme est au bout de votre petit doigt. C'est évident que votre petit doigt est vivant. Quand vous le pressez, vous sentez quelque chose. Et quand vous commencez à vous sentir, vous dites tiens, tiens, quelque chose qui ne va plus. Il y a quelque chose qui ne va plus. Parce que mon âme est présente à travers tout mon corps. Substantiellement présent à travers tout mon corps. Extraordinaire. C'est ça la présence de l'âme. Qui fait que le corps devient intelligible grâce à cette présence de l'âme spirituelle. Quelque chose de particulier qui n'est pas le corps d'un animal. Et vous savez bien qu'on est bien obligé aujourd'hui de le reconnaître. On a fait des expériences par des produits pharmaceutiques qui ont été terribles. Parce qu'on a fait des expériences sur les animaux. normalement un épiderme beaucoup plus sensible que celui de l'animal. Parce que notre âme habite notre corps et que notre âme est spirituelle, tandis que l'âme de l'animal ne l'est pas. Et donc tout notre corps a quelque chose de spirituel. Notre corps n'est pas uniquement charnel. Parce que la même réalité, c'est qui est l'homme vivant, peut être regardé. connaître ce que c'est que la vie, il faut connaître la source. Et la source de la vie, c'est là. Et la moindre lumière que j'ai sur l'âme, cette lumière intérieure que j'ai sur l'âme, je ne peux pas mesurer l'âme. Elle est qualitative, elle est indivisible, elle n'est pas mesurable. La moindre lumière que j'ai sur l'âme spirituelle éclaire toute la complexité du corps, éclaire de l'intérieur la sensibilité, la vie profonde de ma vie humaine.
pas la détermination profonde. La détermination profonde, c'est l'âme qui la donne. Et Aristote dit que l'âme est non seulement cette détermination, cette forme, mais elle est l'acte. L'acte, c'est ce qui finalise. L'acte, c'est ce qui achève. Ce au-delà de quoi je ne peux pas aller, c'est ça l'acte. C'est terrible, c'est pas. Alors à ce moment-là, c'est l'âme qui se réfugie. Et l'âme peut. cela. Alors on verra, justement, à partir des différents degrés de vie, comprendre comment tous ces degrés de vie sont ordonnés à une vie qui est au-delà du corps, tout en restant lié au corps. Et c'est ça qu'il faut comprendre, que notre âme spirituelle, en tant qu'âme humaine, notre âme spirituelle, elle est toujours ce qui assume notre corps. C'est-à-dire qu'elle l'imprègne, qu'elle le détermine, elle le finalise. Elle est présente dans notre corps, elle n'est pas absente. Quelque chose qui dépasse. Et c'est pour ça, du reste, qu'elle peut finaliser et qu'elle peut être vraiment acte du corps. Pour pouvoir être acte du corps, il faut qu'elle dépasse le corps. Voyez comment, au plan philosophique, nous devons affirmer l'unité substantielle de l'âme et du corps. Et c'est cela qui nous permet de comprendre que la métapsychose, c'est-à-dire la transformation après la mort d'habiter un autre corps, n'est pas réaliste, que c'est un rêve imaginatif. Parce que si notre âme est liée substantiellement à notre corps, notre âme ne pourra pas être liée substantiellement à un autre corps. C'est impossible, ça. L'unité substantielle est unique, tandis que l'unité artificielle est multiple et l'unité accidentelle est multiple. C'est là où on voit bien les deux aspects. Cette vision très réaliste de l'âme et du corps, parce que très réaliste, je ne peux pas les séparer, je n'ai aucun une expérience de mon âme séparée du corps. Alors vous allez tout de suite me dire, mais ces expériences qu'on fait aujourd'hui de l'âme qui se sépare du corps quand on est tout proche de la mort, je n'ai pas eu cette expérience, moi. Et j'ai vu des personnes qui m'ont dit qu'ils ont eu cette expérience, et puis j'ai lu des livres où on parle de cette expérience. Vous l'avez peut-être vu. Je crains beaucoup que ce soit très imaginatif. Pas du tout que c'est métaphysique, c'est très imaginatif. La preuve, c'est qu'elles sont revenues. Elle dit ça après coup. Je comprends très bien que dans certaines circonstances, on puisse sentir complètement aérien. Vous voyez, des rêves, il suffit d'avoir des rêves. Dans des rêves, votre âme quitte votre corps. Mais vous n'allez pas dire à ce moment-là que votre âme a vraiment quitté votre corps. Non, vous avez eu ce rêve. Qu'on fasse d'un moment où on est d'une faiblesse très très grande, on ait l'impression de quitter son corps, imaginativement, que le lien avec le corps semble extrêmement détendu. Alors on a comme une espèce de lumière extraordinaire qu'on peut très bien voir dans un rêve. On a tous eu ça dans nos rêves. On a tous eu cette expérience que font les ascètes quand on a fait un jeûne long, long, long. Faites ça une fois, pas trop, faites attention. Hein. Mais je vois très bien cette espèce d'expérience qu'on peut faire quand on a jeûné longuement. Ça arrive dans la vie monastique. On sent très bien le moment où on pourrait partir dans l'imaginaire. Dans une espèce de liberté. On est allégé du corps. Le corps s'est allégé de façon extraordinaire. Alors il ne nous encombre plus. Tandis que quand on a un corps qui est comme un petit tonneau, ça nous encombre beaucoup. C'est lourd, c'est très lourd. Tandis que quand le corps s'est allégé, on sent très bien qu'à ce moment-là, il ne faudrait presque rien pour pouvoir partir. Et on aurait comme une espèce de mystique civilisation extrêmement spiritualisée, d'un décollement. L'âme qui se sépare du corps et qui est toute proche de la lumière, une espèce d'aurore boréale qui ferait qu'on est tout proche. On comprend très bien qu'une certaine fragilité du corps peut amener à cela. Quand votre corps est très fatigué, très fragile, votre imagination devient très aérienne. C'est normal. Et alors, à ce moment-là, elle peut avoir cette expérience-là. Mais ce n'est pas une expérience parfaitement vécue. C'est une expérience intérieure imaginative, je crois. Je crois qu'il y a vraiment séparation de l'âme et du corps. L'âme ne revient plus dans le corps. Peut-il reprendre à son compte la distinction entre corps dira le corps et l'âme ce que nous en tirent. Il dira l'âme noétique. Et l'âme noétique correspond à l'esprit. Nous le verrons. On dit qu'il y a personne quand il y a présence de l'âme spirituelle dans une matière disposée à le recevoir. La création de cette âme spirituelle coïncide-t-elle avec le moment de la fécondation? Autrement dit, dans la genèse d'un être humain, à partir de quand y a-t-il une personne? J'y reviendrai sur cette question. Au terme, pas maintenant, mais c'est très important, c'est capital. Est-ce la même âme spirituelle qui est au principe de toutes les opérations vitales de l'homme? Aussi, je reviendrai là-dessus. Il y a eu des positions très diverses là-dessus, même chez les théologiens, même chez saint Thomas. L'âme est-elle du côté de l'être ou de la personne? L'âme est du côté de l'être, de la vie et de la personne. Mais ce n'est pas la même chose à personne, mais ça nous y reviendrons. Nous connaissons la vie en philosophie du vivant par le biais de nos expériences humaines. Ne projetons-nous pas ce que nous éprouvons sur des êtres qui ne sont peut-être que des réalités matérielles plus organisées? Tout à fait d'accord. Je ne connais pas vraiment la vie du chien.